Avec Uber, je pensais essayer de faire ma clientèle, puisque ça vous est vendu comme vous êtes indépendant, vous avez votre propre clientèle. Mais alors que dans les faits, ils sont nos patrons et ce sont leurs règles. Nous sommes clairement soumis à eux.
À partir du moment où on analyse que les travailleurs non salariés seront en nombre significatif dans le domaine du numérique, il faut impérativement que les organisations syndicales s'adressent à eux pour ensuite créer du « revendicatif » entre guillemets collectif.
Ensemble, on est plus fort et effectivement, dans cette coopérative-là, ce collectif permet d'apporter une certaine sécurité et dans plein de domaines.
Hier, le monde était presque simple. Il y avait les patrons avec leur capital et leurs machines et les salariés qui pointaient en usine ou les cadres plus flexibles qui restaient tard au bureau. Mais la production était circonscrite dans le temps et dans l'espace. Et puis, il y a eu la crise d'un côté et de l'autre, le développement des nouvelles technologies qui ont démocratisé des outils aussi puissants qu'Internet et les réseaux sociaux. L'impact de cette quatrième révolution, celle du numérique, est immense. La robotisation menace des millions d'emplois. La flexibilité exigée par l'employeur est devenue permise depuis qu'on rapporte chez soi son ordinateur. À quoi il faut ajouter l'idée, sinon l'illusion que chacun peut créer une infinité de services, de plateformes, donc de richesses depuis son canapé. Voilà donc les anciens modèles bouleversés. Les travailleurs y gagnent en autonomie, mélangeant allègrement tâches personnelles et professionnelles. Les clients se félicitent de voir disparaître des intermédiaires jugés superflus dans la recherche d'appartements, de moyens de transport ou de services. Et beaucoup d'internautes en profitent pour contribuer, volontairement ou non, à des sites qui exploitent ce travail gratuit. Enfin, les exclus du marché de l'emploi rêvent de créer leur entreprise via le web qui va, en théorie, les connecter au monde entier. Mais comment adapter notre modèle social à toutes ces nouveautés? Quel salaire pour ceux qui évaluent des restaurants, par exemple? Quelle retraite pour les chauffeurs d'Uber? Quel syndicat pour les auto-entrepreneurs? Comment travailler ensemble dans un monde numérique? C'est une enquête signée Catherine Pétillon. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité ce soir Nathalie Andrieux. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous venez du monde de l'entreprise, vous avez longtemps travaillé à La Poste, vous étiez directrice générale en charge de numérique, je crois. Et aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil national du numérique. Et nous sommes aussi avec Antonio Casilli. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Sociologue, chercheur à l'EHESS, enseignant à Télécom Paris Tech, spécialiste de la sociologie des réseaux. Vous travaillez en particulier, vous aurez l'occasion de nous le dire, sur le digital labor, on peut peut-être le traduire par le travail invisible qu'on fait tous quand on est internaute, quand on clique sur notre clavier.
Ou alors on ne le traduit pas, tout simplement on le garde comme ça parce qu'il y a une raison de le garder en anglais.
En anglais, d'accord. Bah, vous nous expliquerez tout ça. En tout cas, vous avez publié « Qu'est-ce que le digital labor ?» pour ceux qui veulent en savoir un peu plus que ce que je viens de dire, avec Dominique Cardon aux éditions INA. Nous sommes avec Catherine Pétillon. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Vous avez voulu rencontrer ces travailleurs du numérique.
Oui, le premier constat, eh bien, c'est que les travailleurs du numérique, ce ne sont pas seulement ceux qui exercent les métiers du web. Bien sûr, développeurs, start-upers, métiers innovants en tout genre sont sûrement en première ligne, des transformations à l'œuvre, mais c'est bien le monde du travail dans son ensemble qui est aujourd'hui bousculé, contrats, outils, missions des travailleurs, relations hiérarchiques, c'est tout cela que le numérique met en tension. Plus de liberté, disent les uns, risque de précarité, estiment les autres. Ce qui est sûr, c'est que le travail prend des formes plus éclatées auxquelles la protection sociale actuelle ne répond pas toujours. C'est l'un des sujets d'ailleurs auxquels l'exécutif s'attellera dans les prochains mois, notamment via le futur projet de loi de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Sur sa table, elle a déjà une pile de rapports, Lemoine, Combrexel, Metling, celui du Conseil national du numérique, bientôt celui du député Pascal Terrasse sur l'économie collaborative. Tous soulignent l'importance des bouleversements. Alors ce qui change, ce sont non seulement les manières de collaborer, mais aussi celles de revendiquer, de céder, de créer, d'inventer. Il y a aussi les nouveaux acteurs, c'est-à-dire les plateformes, ces simples intermédiaires entre des clients et des travailleurs. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr Uber.
Et tout de suite, on écoute votre reportage, Catherine, qui débute à bord de la voiture que conduit Belinda.
Allez-y. Normalement, je ne devrais pas sortir, vous ouvrir.
Non, ça va. Vous auriez dû m'ouvrir, ce qu'on vous a dit, c'est ça, c'est la première règle, ça, faut venir sortir ouvrir la porte.
Tout à fait, ouvrir la porte aux clients, la moindre des choses, je pense.
Alors vous, ça fait combien de temps là que vous faites chauffeur Uber?
Donc là, c'est le troisième jour. C'est très sympa, on voit une clientèle complètement différente d'heure en heure.
Et du coup, comment vous avez commencé?
Donc en fait, j'ai toujours aimé la conduite. Donc si vous voulez, là aujourd'hui, c'était une opportunité qu'en plus... les formations sont simples à passer. Il suffit d'avoir un bon relationnel et ça roule. Si vous voulez, là, je suis en formation. Donc, en fait, il y a des organismes de formation qui vous gèrent pendant 252 heures. Donc, ce qui fait un peu plus d'un mois et demi.
Du coup, là, c'est la formation qui vous a conseillé de passer par Uber ?
C'est la formation qui travaille avec Uber. Donc, vous avez beaucoup de centres de formation, sachant que, en fait, en période de stage, vous êtes obligé de travailler par une plateforme. Donc, eux travaillent avec Uber. Ils auraient pu très bien travailler avec un chauffeur privé. Donc, 90 mètres, il faut que je tourne, il faut que je monte. Mon stage se termine, là, le 3 février.
Il va se passer quoi, le 3 février ?
Il va se passer que il va falloir que je crée ma société. Et par la suite, hein, après l'achat de la voiture, pas l'achat, après voir avec les banques, soit faire un leasing. Et puis, je pense que je vais travailler avec Uber. L'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on peut se connecter avec pas mal de plateformes. Donc, voilà, je vais faire un jour Uber, un jour Allocab, un jour chauffeur privé.
Voilà. Et vous, vous aviez un travail avant ?
Oui, j'étais responsable de boutique. J'étais dans le prêt-à-porter. Donc, comme quoi, bon, ça change pas grand-chose, en fait, à part que là, je suis au volant. Je suis un peu maître de mon véhicule. Allez gros, mais je t'ai prévenu.
Nassim, la petite cinquantaine, est un ancien dépanneur devenu chauffeur il y a quelques mois. C'est précisément la simplicité qui l'a poussé à utiliser Uber. Nassim, c'est quoi votre travail aujourd'hui ?
Je transporte des gens et je travaille avec l'organisme Uber. C'est l'organisme Uber qui nous donne du travail pour des courses. Voilà, on gagne notre vie avec ça. Uber, c'est pas mon employeur. C'est une application qui nous permet de travailler, nous donne du travail. Il prend ses 20%, il prend une commission de 20%. C'est pas notre employeur. L'avantage avec Uber, c'est qu'on peut se connecter quand on veut. On se déconnecte quand on ne veut. Il n'y a personne qui va dire, voilà. C'est ça l'avantage qu'on a.
Le fait d'avoir une application, ça facilite le fait de monter sa propre affaire ?
Oui, exactement. Vous imaginez que s'il n'y a pas l'application Uber, bon, le VTC, ça existe depuis les années 50, je crois. Et avant, il n'y a pas l'application. Mais là, maintenant, il y a une application, ça nous aide. Ça veut dire, si on démarre la voiture pour aller travailler, ça veut dire, on est sûr qu'on va travailler. Avec l'application, surtout le géant Uber, il est connu partout, pas qu'en France, des Anglais, des Allemands, dès qu'ils arrivent à les aéroports ou les gares, ils commandent directement Uber, c'est pour ça.
Du coup, ça vaut le coup de leur laisser une commission ?
Ouais, mais 20%, c'est un peu exagéré un petit peu.
Vous en parlez ça, par exemple, avec vos collègues ou vos équivalents ?
Ouais, on parle de ça, même... par rapport à la baisse de prix, je ne sais pas si vous avez entendu parler sur la baisse de prix Uber et la baisse des prix. Soi-disant, avant, une course minimum, c'est 8 euros, et là, une course minimum, c'est 5 euros. Vous imaginez qu'on prend un Clio pour 5 euros, que la course, ça va durer 20 minutes, qu'on tombe sur des bouchons. Si on fait 10 fois 5 euros, ça veut dire que c'est 50 euros, on va gagner 50 euros. Mais par rapport au temps, on perd du temps. Voilà. Après, on n'a pas le choix, mais il faut travailler. C'est bon.
Nassim, suite à cette baisse des prix, c'était en octobre dernier, certains chauffeurs ont manifesté contre Uber. Vous, vous y êtes allé ?
Oui, j'ai été à la manifestation devant les sièges Uber, mais il y avait à peu près dans 1000 VTC qui étaient sur place. Ouais, mais je crois que ça n'a rien changé en fait.
Comment ça s'est organisé cette manifestation ? Comment vous vous êtes rencontrés les uns les autres ? Comment vous avez décidé ça ?
C'est des collègues, ouais. C'est un collègue qu'on s'est rencontré déjà au centre de formation. On se partage des communications. Des fois, on mange ensemble, on prend des cafés ensemble, on discute sur ça, sur autre chose. C'est des collègues du travail. Voilà. On s'appelle presque tout le temps. Moi, j'ai 4 amis à moi qui font ça. On s'appelle chaque jour. On s'appelle. Voilà. Et lui, il va me dire aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai gagné ça. Moi, je vais lui dire ah non, moi, de mon côté, c'est mort, j'ai fait ça. Voilà, on s'appelle.
Uber n'est qu'un exemple d'une nouvelle forme d'activité économique qui se développe dans tout un tas de secteurs. D'un côté, des clients, de l'autre, des indépendants. Au milieu, des plateformes numériques qui définissent le service, son prix et ne proposent aux travailleurs qu'une mise en relation. Livraison de repas, de fleurs, de logements, la liste des secteurs concernés s'allonge chaque jour au point d'avoir donné naissance au terme d'ubérisation. À chaque fois, un même système, un fonctionnement régi par de simples conditions générales d'utilisation que le travailleur doit accepter. C'est cette dépendance qui a décidé Saya Baroun à participer à la création d'une section syndicale VTC à l'UNSA.
Ça paraissait être une bonne chose au début en apparence, puisque ça vous est vendu comme vous êtes indépendant, vous avez votre propre clientèle, et quand vous avez le temps, allumez l'application, vous gagnerez votre vie. Mais finalement, on s'en rend bien compte au bout d'un moment qu'on travaille que pour eux et qu'on est soumis à leur direction, quoi. Alors moi, je n'avais pas commencé avec Uber, je pensais essayer de faire ma clientèle, bosser un peu avec des contacts, etc. On se rend compte que c'est difficile puisque ces plateformes-là, comme Amazon ou autres, captent la clientèle, donc vous ne pouvez plus la faire. Et quand je me suis inscrit chez eux, je crois le 28 mai, 4-5 jours plus tard, on a organisé la première réunion pour essayer de créer un syndicat. Donc on a rapidement compris que c'était, pour moi en tout cas, je la vois un peu comme une grosse arnaque, à savoir on vous dit que ce sont vos clients, nous ne sommes une simple plateforme de mise en relation. Dans nos contrats Uber, il nous est interdit de dire que ce sont des transporteurs. Ils veulent rester dans la position technologie, on met en relation les gens et ce sont vos clients. Alors que dans les faits, au quotidien, on sait très bien que c'est la clientèle Uber.
Et ça,
ce ne sont pas nos clients, ce sont leurs clients à eux.
Mais ça, ça se traduit par quoi ?
Ils vous disent on travaille pour vous et vos clients. Donc ils vous disent on vous fait votre comptabilité, on encaisse les sous à votre place, on va vous rechercher des clients, etc. Et ce sont les vôtres. Ça, c'est dans la forme. Et il faut absolument qu'on reste dans cette forme-là pour eux, parce que sinon, c'est un danger pour eux. Mais alors que dans les faits, on le voit au quotidien, ils sont nos patrons, c'est leur clientèle, et ce sont leurs règles. C'est eux qui imposent les tarifs, les forfaits, la clientèle, le matériel, etc. Et nous sommes clairement soumis à eux. Uber vous propose tout hein, dans les débuts. Quand vous voulez vous lancer, il vous propose un comptable, des partenaires comptables, bien évidemment. Ils peuvent vous proposer des partenaires, des assureurs, des loueurs de véhicules. Ils peuvent vous aider dans tout, mais ça reste toujours à distance. Et maintenant, on se lance dans un système nommé ubérisation que même les États ne comprennent pas. Donc je ne prétends pas tout comprendre, mais je sais que s'il n'y a pas de syndicat pour essayer de réglementer ça rapidement, on court à la catastrophe.
Vous étiez à la manifestation aussi qu'il y a eu devant le siège d'Uber ?
Alors, nous n'avons pas appelé à la manifestation justement ce jour-là, puisqu'on a une façon de voir qui est différente, malheureusement. C'est que les syndicats taxis existent depuis plus d'une centaine d'années, quand même. Donc, niveau combat, ils sont aguerris au combat et nous, non. On n'était pas assez connus pour appeler à manifester. Donc quand des groupes sur Facebook se préparent à manifester qui sont 150-200 et qui finalement on arrive sur place et qu'il n'y a pas grand monde, ça pose un souci. La solidarité, elle n'est pas encore au top pour le moment, donc c'est difficile. Mais le principal problème, c'est l'information. Beaucoup n'étaient pas informés.
Et justement, comment vous pouvez, vous, connaître les autres chauffeurs ? De quelle manière vous êtes en lien les uns avec les autres ?
Alors on a les réseaux WhatsApp. Il y a énormément de groupes sur WhatsApp, hein. De groupes par application, de groupes par secteur, de groupes... on est même dans des groupes entre taxi et VTC, on se fournit des courses entre nous. Et ensuite, il y a information syndicale où on est là à balancer les infos qu'il y a, quoi. Et on communique, le Facebook commence à être plutôt bien connu, hein, à chaque fois 3 000 à 4 000 vues, donc ça commence à être pas mal. Bah après, on va dire que c'est un petit peu quand même exponentiel, hein. On est une vingtaine de membres du bureau actifs, donc à chaque fois que quelqu'un papote avec d'autres dans les gares, etc., donc il explique sa situation, les combats qu'on fait au quotidien, il les intègre dans les réseaux, on leur donne la page officielle Facebook, et puis chacun se renseigne et donne l'info à d'autres. Mais ensuite, il faut continuer quand même les actions, le tractage, tracter dans les gares et les aéroports, etc. Il y a du travail de terrain. Ensuite, il faut prendre son temps et puis le faire correctement, quoi. Je pense qu'un syndicat est d'abord là pour essayer de conseiller. Alors, on ne peut pas protéger tout le monde, on ne peut pas faire l'appui le beau temps rapidement. Mais c'est d'abord informer, conseiller. Et dès que la troupe est prête, là, on pourra peut-être engager. Mais ce n'est pas dans un état d'esprit d'abord de faire la guerre, quoi. C'est essayer de réglementer. Et si ça ne marche pas, se préparer au mieux pour faire une grève.
Et si le collectif de travail était une foule ? C'est l'idée d'un certain nombre de plateformes qui découpent le travail en micro-tâches, très peu payées, et font appel à des internautes pour les réaliser. L'exemple le plus connu, c'est le programme Mechanical Turk d'Amazon. En France, l'entreprise Full Factory propose un même système de travail à la pièce en ligne. Son cofondateur, Daniel Benwalid, la présente comme une place de marché.
Donc le particulier qui va s'inscrire et se connecter sur Full Factory va voir un espèce de tableau de bord sur lequel on va lui présenter les 2, 3, 10, 20 projets en cours sur la plateforme en lui indiquant quelle est la rémunération par tâche, et libre à lui ou non après de faire les projets qui l'intéressent et de contribuer, de faire une micro-tâche ou plusieurs micro-tâches. Par exemple, vous avez 10 000 photos à classer dans vos catégories d'achat. C'est valable pour les e-commerçants, pour des commerçants traditionnels. Une micro-tâche, c'est classer une de ces photos. Ça se prête bien à toutes les tâches qui sont quelque part répétitives, quasi automatiques, mais pas automatisables. Tout ce qui ne peut pas être traité par la machine.
Combien on est payé pour une tâche ?
Alors, la tâche moyenne chez nous dure en moyenne une minute et le contributeur est défrayé 0,25 centimes pour faire cette tâche. On a aussi souhaité limiter les gains des contributeurs à 3000 euros par an. Ça s'explique par le fait qu'on souhaite que ça soit quelque part un complément de revenu, un revenu additionnel. Par contre, il y a un autre cas de figure, effectivement, c'est si le contributeur est un professionnel, c'est-à-dire s'il est immatriculé, évidemment, cette limite-là n'a plus de sens. Et donc, il peut contribuer plus largement ou plus globalement sur la plateforme.
Aujourd'hui, c'est le cas. Si moi, je suis en tout entrepreneur ou que j'ai une entreprise, je peux travailler pour plus que 3000 euros ou décider de faire de ces contributions une activité majeure, voire principale.
Pourquoi pas, oui.
Quelle conception du travail cela définit une plateforme comme la vôtre, dès lors que ce sont des tâches parcellisées, que ce sont des tâches qui s'inscrivent dans un ensemble sur lequel on n'a aucune visibilité et que ce sont des tâches qui ne demandent pas de compétences particulières?
Évidemment, c'est du fordisme, du taylorisme, du 21 numérique. Une fois qu'on a dit ça, la chose qui change et qui est complètement déterminante, c'est qu'on est sur du dématérialisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que de la chaîne de montage, je ne vais pas faire toujours le même type de projet, peut-être que je vais en faire 2 heures dans la journée, après je vais aller à mon travail principal, et que le soir je vais aller vendre des objets sur le bon coin. Enfin, on peut imaginer une multiplicité, c'est le numérique qui permet aussi cette facilité-là.
Quel lien ils ont entre eux, les contributeurs ?
Ils font tous partie de la même plateforme, ils n'ont pas sinon de lien entre eux, c'est des internautes. On a des mères célibataires dans la Drôme, on a des personnes à mobilité réduite en Ardèche. Voilà, enfin, il y a énormément de gens, ce sont des profils extrêmement variés. Ils ont un forum dédié, complètement autonome, sur lequel voilà, ils peuvent échanger à propos des projets en cours, à propos des évolutions qu'ils souhaiteraient voir sur la plateforme, etc. etc.
Un forum autonome de quoi ?
Qui n'est pas modéré par Full Factory.
Mais qui a été créé par...
Oui, enfin, on a créé l'espace, on paye l'hébergement, mais quelque part on n'intervient pas, on ne supprime pas les commentaires, les gens sont complètement libres de dire ce qu'ils en pensent.
Pour les travailleurs, ces nouvelles formes d'emploi réclament-elles d'autres manières de se défendre ? Ce soir-là, la question est débattue à Numa, un espace parisien consacré à l'innovation numérique. De quelle protection peuvent bénéficier ces nouveaux travailleurs indépendants ? L'enjeu bouscule aussi les syndicats traditionnels, reconnaît Yvan Béraud, secrétaire général de la Fédération Communication Conseil Culture de la CFDT.
Avant, les indépendants, c'était des professions très structurées, notamment autour de l'artisanat ou des professions libérales. Aujourd'hui, on les voit qui travaillent en interaction ou autour de collectifs de travail organisés dans des grandes entreprises. C'est ça qu'on voit dans le numérique et c'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. Très classiquement, dans les entreprises, autour du service numérique, les gens sont en mode de travail-projet et on va avoir des gens de différents horizons. Sur certains projets, on voit que, par exemple, le chef de projet, ça va être un auto-entrepreneur et que les gens qui vont travailler dans le projet, ça va être des sous-traitants, mais qui travaillent dans une société de service. Et là, nous, on a un vrai travail de conseil à construire vis-à-vis de ces travailleurs-là.
Mais est-ce que les syndicats eux-mêmes sont adaptés à cette réalité ?
Nous, c'est tout l'enjeu qui se pose à nous. À partir du moment où on analyse que les travailleurs non salariés seront en nombre significatif dans le domaine du numérique, il faut impérativement que les organisations syndicales s'adressent à eux, regardent voir quel type de service on peut construire pour eux et regardent voir quel type de revendications collectives on peut construire avec eux. Et nous, organisations syndicales de salariés, il faut vraiment qu'on s'adapte et nous, on construit tout un travail autour de qu'est-ce que concrètement les travailleurs du numérique peuvent attendre des syndicats en termes de services concrets. Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les aide à construire des services de facturation, des services de compta ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin collectivement ? On parle beaucoup du compte personnel d'activité. Est-ce que le compte personnel d'activité, justement, pourrait intégrer les travailleurs indépendants ou les auto-entrepreneurs ? C'est des questions comme ça, très concrètes, qui se posent et qu'on doit travailler avec cette population-là pour ensuite à la fois créer des services, mais aussi créer du revendicatif, entre guillemets, collectif.
L'atomisation des travailleurs qui travaillent ici et là pour telle ou telle entreprise à la faveur d'un projet, cette nouvelle articulation que vous venez de décrire, est-ce qu'elle a, selon vous, une incidence sur la manière de se mobiliser ?
Elle a une incidence sur la manière et la capacité de mobilisation, mais paradoxalement, on est plutôt en ce moment sur des effets de regroupement. Parce que les entreprises recréent des sièges assez gros, des sièges qui produisent. On a La Poste, on a Orange, on a SFR, on a vraiment un certain nombre d'opérateurs du numérique qui créent ce type de lieu dans lequel on va trouver des salariés de ces entreprises-là, des indépendants, des salariés de prestataires de services. Donc pour nous, c'est des opportunités d'implantation. On a dans des lieux des espaces de coworking, des tiers-lieux, dans lesquels effectivement il y a un certain nombre de gens qui viennent travailler ensemble. Et du coup, ça recrée des lieux où il y a beaucoup de travailleurs. Et donc pour nous, organisation syndicale, comme on s'est bien adressé des groupes de travailleurs, c'est assez pratique pour nous. On arrive à en mettre beaucoup un soir dans une même salle. Alors que peut-être il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça aurait été plus compliqué parce qu'ils étaient plus éclatés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que paradoxalement, la réorganisation du travail et le remodelage des frontières des entreprises recréent des lieux où il y a beaucoup de travailleurs, mais par rapport à avant, la vraie différence, c'est qu'ils ne sont pas tous dans la même entreprise, voire même ils ne sont pas dans une entreprise du tout.
On peut démarrer la réunion d'info, la rencontre d'info, si vous voulez.
Ce qu'on appelle les tiers-lieux, ce sont ces espaces qui ne sont ni le domicile ni l'entreprise. En 2014, on recensait plus de 250 espaces de coworking accessibles pour un prix moyen de 250 euros mensuels. À la journée, au mois, des travailleurs s'y réunissent pour mutualiser du matériel, des compétences, partager des événements et éventuellement travailler ensemble.
Vous voyez le plan qui est là, avec différentes couleurs qui montrent en fait trois types d'espaces. Les espaces de convivialité, donc dans lesquels il y a toujours un peu de bruit, toujours un peu de discussion enflammée ou pas. Les espaces de travail collaboratif en bleu, donc des salles de réunion et salles de jeu, salles téléphone. Et enfin, en rouge, les espaces de travail individuels, dans lesquels justement l'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de bruit. Pour que tout le monde... Après, il y a des gens qui aiment bien le bruit aussi en travaillant, mais on essaie de trouver une moyenne, justement, et d'harmoniser tout ça.
Dans un monde professionnel aux frontières transformées, finit l'unité de lieu, de temps, d'activité. Et si le nombre d'indépendants ne cesse d'augmenter, ils ne veulent pas pour autant rester seuls. Dans ces nouveaux espaces se trouvent bien sûr beaucoup de freelances, de créateurs de start-up, mais aussi pour moitié des salariés d'entreprise. Aurélien Denas est à la tête de Casaco, un espace de coworking situé à Malakoff, en proche banlieue parisienne.
L'idée, c'était de rassembler nos forces pour avoir un lieu commun. C'est ce que nous, on appelle une tribu. Donc en fait, en gros, une tribu, c'est notre communauté. Et c'est aussi un écosystème. Autour de nous, il y a énormément de personnes et d'institutions, de structures qui tournent. Et enfin, et ça, nous, on y tient énormément, une gouvernance démocratique, puisqu'on veut, en effet, que chacun puisse donner son mot. Alors pas tous les jours, mais sur tout ce qui est stratégie. Donc en fait, on matérialise ça par deux choses. Tous les mois, on fait un conseil de la tribu, dans lequel tous les membres peuvent se rassembler, donc souvent on est 30-40, et l'idée c'est de discuter des sujets du mois, des événements, faire remonter ce qui va, ce qui va pas, et une fois par an, on a notre assemblée générale, et là on décide tous ensemble des orientations de notre outil de travail. On est une centaine, un peu plus de 100 membres, alors qu'on voit pas tous les jours hein, de fait, mais les types de personnes ici présentes, on a un peu de tout. C'est ça qui nous intéresse, donc des startups de fait, qui utilisent aussi beaucoup les compétences des personnes ici qui sont consultants, graphistes, agences digitales, vidéastes, designers 3D, etc., etc. On a des promoteurs immobiliers, on a des conseillers en investissement, on a des vendeurs de tours de contrôle, on a des vendeurs de charcuterie, enfin des commerciaux en charcuterie. On a des journalistes, on en a beaucoup. On a des coachs et des accompagnateurs aussi, beaucoup, en économie sociale et solidaire, en ressources humaines et autres. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, des slasheurs, donc des personnes qui ont plusieurs métiers. Et ça nous va bien, moi-même j'en ai plusieurs. Donc en fait, toutes les personnes qui sont indépendantes et dans cette recherche aussi d'émulation.
Jérôme, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle meilleurformateur.com, dont l'objectif est de mettre en relation des formateurs, toute matière, tout niveau, partout en France, avec des donneurs d'ordre du secteur. Le site est lancé depuis mai et je suis installé ici depuis le mois d'avril. Donc comment ça se passe chez Casaco? Moi j'étais précédemment, j'avais une autre boîte qui était installée dans un hôtel d'entreprise, une pépinière d'entreprise publique. Donc j'ai un peu des éléments de comparaison, puisqu'ici j'ai trouvé certes un espace pour m'installer physiquement, mais aussi une vraie communauté collaborative au sens large. Le meilleur exemple, c'est le premier jour où je suis venu ici, j'ai raccroché une conversation téléphonique avec mon agence web, et Vincent, qui est installé juste derrière moi, m'a dit « Ah tiens, je t'ai entendu parler de ça, je vais te montrer comment on fait ». Voilà, donc pour moi, être ici, ça a beaucoup de sens parce qu'il y a deux agences web, des graphistes, il y a Caroline qui est l'ancienne directrice éditoriale de Yahoo qui m'aide aussi dans mon positionnement éditorial en ligne. Et il y a toujours quelqu'un pour répondre à l'une de mes questions. Nous, on est une petite équipe, on est une petite start-up, donc on a toujours besoin de compétences, d'idées, de savoir-faire un peu spécifiques. Et heureusement qu'on a atterri chez Casaco parce que ça nous a fait gagner des semaines, des jours de travail assez important. Et puis, autre aspect non négligeable, celui de la convivialité, parce que c'est un lieu qui est assez ouvert sur les thématiques qui, moi, ne me parlaient pas forcément au moment où je suis arrivé, qui sont l'économie collaborative, enfin tout un tas d'activités, de gens qui sont de passage, qui viennent présenter ce qu'ils font, leurs projets, leur façon de faire, leur façon de voir, etc. Et donc c'est de l'ouverture d'esprit pour nous. Et voilà, et c'est jamais mauvais, l'ouverture d'esprit, surtout qu'on est en train de gérer un projet un peu comme ça, de manière entêtée, d'avoir des moments, des petites bulles où on rencontre des gens qui font autre chose, qui nous amènent autre chose, une autre façon de voir, une autre façon de faire.
Là, vous parliez du Vincent, qui vous dit « je vais vous expliquer », mais alors du coup, comment vous qualifierez ce qui se passe à votre voix à ce moment-là? Est-ce que c'est des conseils? Est-ce que, à quoi ça vous sert? Est-ce que c'est des l'apport de compétences? Est-ce que vous auriez pu l'avoir ailleurs?
Alors, l'avoir ailleurs, oui, en payant sans doute. C'est de l'apport de compétences très opérationnelles, c'est-à-dire on parle de référencement naturel qui est un enjeu pour nous ici, où on a des gens qui se connaissent très bien, donc on parle vraiment de points très techniques, très durs, sur du code, sur des choses comme ça. On parle aussi de savoir-faire plus générique sur l'acquisition client, la visibilité web, le travail sur les réseaux sociaux, etc., qui sont des choses aux compétences très larges. Et donc les apports qu'on se fait entre nous sont pas comme ça des choses à la volée, c'est plutôt très opérationnel. En tout cas, me concernant, c'est très opérationnel.
Et très concrètement, ça veut dire que vous demandez à votre voisin de bureau, ou alors vous prenez rendez-vous avec quelqu'un en lui disant « moi j'ai tel problème, est-ce qu'on peut se faire une réunion ?»
Alors on peut le faire comme ça, après ça c'est en fonction des relations de chacun. Moi je serais plutôt à me retourner, à dire « tiens, au fait, je travaille sur les balises de données structurées de mon site, est-ce que tu as déjà fait ?»« Oui, j'ai déjà fait, comment tu as codé, montre-moi. » Voilà, on le fait plutôt de manière informelle. Il y en a qui le font de manière plus formelle, parce que moi je vois souvent des réunions entre membres de la communauté qui travaillent sur des projets spécifiques, mais me concernant moi, sans doute propre à ma façon de travailler, mais c'est plus informel autour d'un café, en dérangeant tout le monde sans aucune gêne.
Que ce soit dans l'entreprise ou en dehors, les carrières linéaires se font de plus en plus rares. En France, 2,5 millions de personnes sont déjà pluriactives. Souvent, cela veut dire plusieurs statuts, salariés ici, auto-entrepreneurs là, pas toujours simple de s'y retrouver, ni de décider ce qui est acceptable. À l'heure du déjeuner, à Casaco, on en discute.
Bah après, moi, j'essaye. Hein. Si je vois au bout d'un mois, c'est l'arnaque, j'arrête. Tu vois. Coursier. Moi, je vois plus ça comme... alors, c'est peut-être mon côté, c'est peut-être ma génération, mais je vois plus ça comme une chance. Mais parce que moi, le salariat, pour moi, c'est un peu désuet. Enfin, moi, j'ai jamais été salarié. Je crois que j'ai pas envie d'être salarié. C'est pour ça que je crée mon entreprise aussi, tu vois. Je me dis, bon, je vais taffer, je vais gagner de l'argent, puis point barre. En termes de protection, j'ai pas peur parce que je sais qu'il va... Je vois pas ce qui pourrait m'arriver, quoi.
Regarde là, vous voyez ici arriver à Casaco ou passer à des gens qui ont comme ça des activités à la tâche issues de plateformes numériques.
On a beaucoup de jeunes, en effet, qui viennent ici et qui sont dans la croyance du changement par l'économie collaborative. Pourquoi pas, hein, c'est pour temporairement et dans l'idée aussi d'être de construire quelque chose de plus épanouissant, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand on voit des gens qui se disent « ça sera mon travail, ça sera ma vie », là, on dit non, vraiment, essaie de vraiment de voir plus loin par rapport à ta vie professionnelle.
Vous avez des gens qui sont venus, qui sont passés ici avec un peu cette idée-là?
On en a eu, alors on en a peu, heureusement, mais on le voit de plus en plus dans les jeunes générations, en effet, cette idée que, bah, en fait, on va se mettre dans une position de sous-traitance, de prestation de service, en vendant un peu notre temps, en fait, c'est un peu ça, c'est on vend notre temps, même pas notre cerveau, c'est vraiment on vend notre temps à qui veut bien. Avec, en effet, derrière tout le marketing de l'économie collaborative. En fait, c'est une solution de simplicité. C'est, y a une plateforme internet, y a un pote qui m'en a parlé, tiens, lui, il le fait, bah, je vais y aller, moi aussi, je vais faire ça. Et en fait, c'est vrai qu'on a, ce côté simplicité qui, mais c'est marrant parce que c'est aussi nous, ce qu'on défend, c'est la simplicité. Mais c'est une sorte de simplicité malsaine parce que c'est, comment dire, on n'est pas du tout dans la réflexion sur, on est vraiment juste dans l'usage pur et la volonté d'avoir demain de l'argent. Mais ce qui est dans une forme de précarité aujourd'hui, avec la situation de l'emploi qu'on connaît, qui peut être normal, mais c'est que les plateformes sortent beaucoup sur ça, avec cette notion très court-termiste de demain j'ai besoin d'argent. Et nous, justement, on essaie de dire « Ok, pourquoi pas ?» Mais par contre, vraiment, en même temps, travaille ton projet et vois beaucoup plus loin que ça pour aussi te libérer de ces contraintes.
En même temps, avoir un petit job, c'est pas nouveau, c'est pas arrivé avec le numérique.
Oui, tout à fait. Mais là, pour le coup, c'est le petit job institutionnalisé et le fait d'avoir une continuité, justement, dans ce travail à la tâche. Et avec le remplacement aujourd'hui de pas mal de pans de l'économie par l'économie collaborative, on est pas mal à avoir justement peur que ça devienne une norme, ce travail à la tâche, et que ça soit une nouvelle forme d'esclavagisme aussi, puisqu'il n'y a pas ce partage de valeur ajoutée, puisqu'il n'y a pas cette propriété de l'outil de travail par ceux qui le font concrètement. Donc en fait, on essaie justement, nous, d'amener une nouvelle vision de ce que peut être le travail par ces sujets-là.
Encourager des formes alternatives de collectifs de travail, c'est l'une des recommandations du Conseil national du numérique. À l'opposé de l'économie collaborative, les sociétés coopératives proposent précisément une autre manière de faire communauté, un modèle ancien qui répond aux questions très actuelles du numérique. Copanam, faire société. Donc là, on est devant la coopérative d'activité et d'emploi Copanam, dans le 20e arrondissement de Paris.
Bonjour. Je suis Noémie de Grenier et je suis co-directrice générale de Copanam.
Noémie de Grenier, on est ici à Copanam, c'est une coopérative d'activité et d'emploi, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est une entreprise qu'on partage entre plein d'activités très différentes. Il y a à peu près 800 personnes aujourd'hui qui développent une activité, que ce soit du jardinage, du secrétariat à distance, des graphistes, des gens qui font de la formation professionnelle, etc. Des activités très différentes qui la développent tous à Copanam, c'est-à-dire qu'ils se salarient à partir de leur chiffre d'affaires et on mutualise tout ce qui est d'ordre juridique, administratif et comptable. Donc on fait une seule entreprise avec plein d'activités à l'intérieur. L'autre particularité, c'est qu'elle est ouverte, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre la structure quand on porte un projet pour venir le développer et se salarier, se co-salarier finalement avec les autres membres de la coopérative.
Alors comment on peut qualifier les membres de la coopérative ? Alors c'est pas vraiment des salariés, c'est pas vraiment des entrepreneurs ou alors c'est plutôt tout ça à la fois. C'est quoi la différence pour quelqu'un qui monte son activité quand il vient à Copanam ? Qu'est-ce qu'il trouve ?
Alors la différence, c'est effectivement le fait que la responsabilité juridique de toutes ces activités, elle est bien portée par la structure. On est bien collègues, donc on forme bien une communauté avec des liens étroits entre elles. Et puis effectivement, on est un peu entrepreneur, un peu salarié. La loi sur l'ESS parle bien d'entrepreneurs salariés. Nous, on a pris l'habitude de parler de coopérateurs parce qu'au final, plus on développe son activité au sein de la coopérative et finalement, plus on devient coopérateur.
Alors, je suis Alexandre, je suis vidéaste et fondateur du studio Sinoc. Voilà. Quand je suis rentré dans la coopérative, j'y ai découvert une véritable notion de solidarité, mais à un sens assez large, de soutien, d'aide, d'accompagnement, de réflexion pour notre développement. J'aime bien dire que mon activité, donc c'est Sinoc, c'est mon activité qui me fait gagner ma vie, voilà. Mais l'entreprise, ça reste la coopérative. Et mon activité, elle est composée de deux personnes, mais l'entreprise dans laquelle je suis, elle est composée de 700 personnes. Et ce que j'aime aussi dans cette coopérative-là, c'est la possibilité à un moment de pouvoir m'engager dans un projet qui concerne pas simplement moi ou nous deux qui avons monté notre studio, mais qui concerne 700 et même presque 800 personnes, quelle que soit l'ampleur du projet dans lequel on s'implique. Et donc on se retrouve dans une énergie et dans une dynamique et dans une réflexion qui n'est pas la même. D'un seul coup, on peut avoir une vision et avoir un rapport différent aux autres, au monde du travail et au collectif, sur une dimension de 600, 700, 800 personnes.
Est-ce que ça change des choses dans les relations que vous avez, vous, avec vos clients ?
Oui. Ensemble, on est plus fort. Et effectivement, ce groupe, ce collectif, permet d'apporter une certaine sécurité. Et dans plein de domaines, quand on est sur des petites structures comme nous, et puis nous, on s'adresse parfois à des grands groupes, au tout début, ça peut être un petit peu délicat. Le rapport de force est un petit peu délicat. Si on a une problématique liée à ce client-là ou sur le rapport qui est en train de se mettre en place avec un client qui est peut-être un petit peu imposant, on a le retour du collectif qui peut être assez bénéfique et nous apporter une autre vision et nous permettre de réfléchir et de l'aborder autrement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point, c'est que finalement, certains moyens de pression que peuvent avoir certains clients sur les paiements, sur l'argent, sur ce genre de choses, nous, on ne les a pas. Quand le client travaille avec nous, la relation de travail se fait avec nous, mais toute la relation comptable, juridique et tout se fait avec la coopérative. Donc il est engagé aussi avec la coopérative. Nous, ça nous sécurise. On parlait tout à l'heure de solidarité et à quel point ça sécurise une activité comme la nôtre. Sur notre type d'activité, sur la taille de nos structures, on est deux, on est plutôt petit, mais on travaille voilà, parfois avec des groupes qui peuvent mettre un certain temps à régler. Sur beaucoup d'activités, quand je vois même des collègues à moi qui sont sous d'autres formes juridiques, pour eux c'est très compliqué. Un client qui traîne, qui met 3, 4 mois, et puis parfois il met encore plus de temps pour régler, et le problème c'est qu'on peut pas non plus trop faire la pression parce qu'on est des petites structures, donc si jamais on met trop de pression, on peut se retrouver un peu au clash. À un moment c'est obligatoire, mais c'est bien d'essayer de l'éviter. Donc deux petits gars dans leur studio, dans leur grotte, comme vous avez vu, qui vont toquer à la porte parce que en fin de mois, si jamais le client ne paye pas, il se retrouve vraiment en difficulté. C'est pas la même chose que finalement une coopérative de 700 personnes qui rappelle à un client qui traîne pour payer qu'ils doivent 3, 4 ou 5 000 euros pour telle prestation. Toute la direction ou le bureau en tout cas de la coopérative est là en cas de difficulté, pour monter au créneau et soutenir le coopérateur auprès d'un client qui serait un peu difficile. On est des métiers, on pourrait très bien travailler chacun dans notre coin, de manière autonome, sans jamais avoir de rapport avec les uns et les autres. Voilà, le fait de rejoindre une coopérative, ça donne aussi la possibilité de s'impliquer dans un collectif. Et on parlait du numérique et de ce que ça pouvait impliquer. Eh ben, nous, ce qu'on voit dans la coopérative, même si on a des outils pour échanger ensemble, pour se rencontrer via les réseaux sociaux ou via des plateformes particulières, c'est qu'à un moment, même si on est éclaté sur tout le territoire, il faut créer des moments pour que tous ces travailleurs autonomes puissent se rencontrer, échanger, parler soit de leur activité, chacun de leur côté, pour avoir le regard des autres, un peu les avis et tout ça, soit parler ensemble du collectif et de comment développer la coopérative ensemble.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, comment travailler ensemble dans un monde numérique. C'était une enquête signée Catherine Pétillon, réalisée par Annie Bro. Nous sommes toujours avec le sociologue Antonio Casilli et avec Nathalie Andrieux, qui est membre du Conseil national du numérique. Une première question à vous deux, mais peut-être à vous monsieur d'abord. On vient bien de voir à quel point ces nouveaux salariés qu'a rencontré Catherine vivent dans un espace et dans un temps qui quand même très différent de celui d'autrefois, ou même presque de celui d'aujourd'hui, j'allais dire, en tout cas dans des grandes structures comme la nôtre, par exemple, à Radio France, où on vient quand même travailler le matin et on repart le soir chez soi. Et entre-temps, on était quand même dans une entreprise dans laquelle il y a des centaines, voire des milliers de salariés. Est-ce que pour vous, c'est ce brouillage entre vie professionnelle, vie privée, entre lieu de production et chez soi où on emmène son outil de travail, qui constitue le fondement majeur du bouleversement qu'on vit en ce moment ?
Le changement, à mon avis, est d'abord dans la définition même. Vous l'avez défini comme des nouveaux salariés, justement. Ils ne sont pas des salariés. Ils sont des personnes qui travaillent. Certainement, ils sont des travailleurs. Mais leur encadrement, même d'un point de vue, effectivement, de leur rémunération, ne relève pas de cette institution historique qu'on a connue sous le nom de salariat. D'ailleurs, par contre, ce changement a eu lieu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un glissement progressif vers des nouvelles formes de professionnalité, des nouvelles formes de contrats et aussi de nouvelles manières de travailler. Et en effet, ce qu'on remarque est que de plus en plus de tâches productives aujourd'hui n'ont plus lieu dans l'usine ou le bureau ou l'entreprise, enfin, ne sont pas ancrées à un lieu de travail et ne sont pas formalisées, donc ne relèvent plus de l'emploi, mais relèvent plutôt de formes mixtes, hybrides, voire de travail gratuit qui est réalisé non pas par un salarié, mais par quelqu'un qu'on a du mal à définir. On le définit comme un freelancer, mais parfois on le définit comme un usager, un utilisateur tout simplement d'une plateforme numérique, ou parfois on le définit comme un consommateur d'un service, et pourtant ce consommateur et cet utilisateur, bah, il produit de la valeur pour l'entreprise.
Des richesses, donc, et justement, il ne touche pas de salaire, c'est bien. Pour ça qu'il ne faut pas utiliser le mot salarié. Nathalie Andrieux, vous avez longtemps travaillé à La Poste, je le disais tout à l'heure en vous présentant. Est-ce que dans les grosses sociétés comme La Poste, il y a aussi ce que j'appellerais ce brouillage entre finalement vie privée, vie professionnelle? Est-ce que là aussi les frontières sont en train de bouger à cause du numérique?
Alors, La Poste et les autres grandes entreprises, vous avez cité tout à l'heure votre entreprise, hein, Radio France, hein, je crois que au sein de chacune des entreprises, les formes de travail doivent changer. Je ne dis pas qu'elles le font, qu'elles le sont systématiquement, mais je pense vraiment qu'elles doivent changer. On assiste aujourd'hui avec le numérique à de plus en plus de liberté quelque part ou d'autonomie, mais aussi de plus en plus de précarité. Si je prends l'individu au sein de l'entreprise, rapporter du travail le soir, on n'avait pas besoin d'outils internet pour le faire. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans et je le faisais déjà, sauf que avec je prenais des dossiers et que on se cassait un peu le dos, mais on le faisait quand même. Et vous l'avez cité dans votre reportage, il y a beaucoup de choses qui préexistaient, mais avec le numérique, elles sont simplement amplifiées ou alors elles sont industrialisées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontière entre vie privée et vie publique, parce que finalement, l'outil nous apporte une connexion permanente. Et c'est de ça qu'il faut, quelque part, arriver à s'abstraire et à gérer nous-mêmes ce qui relève de la vie privée, ce qui relève de la vie publique. Donc ça ne répond pas exactement à votre question dans l'entreprise, parce qu'au sein de l'entreprise, alors bien sûr, c'est la vie professionnelle, mais cette vie professionnelle doit évoluer dans son fonctionnement. Aujourd'hui, je trouve qu'on a perdu un peu le sens de l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu où, en théorie, les individus sont là au service d'un sens collectif. Ils sont collectivement...
Une mission peut-être, ou d'un projet, c'est
d'un
ça?
D'un projet, ouais, collectif, d'un sens collectif, d'une mission collective. Si vous prenez La Poste, clairement, une des missions, ça a été de distribuer le courrier en confiance, ou les colis en confiance. Donc on voit bien qu'on a une mission auquel on s'accorde tous, c'est-à-dire qu'on œuvre pour cette mission collective. Et cette mission collective, aujourd'hui, parfois dans certaines entreprises, on la perd et on se raccroche aux structures. C'est-à-dire on se raccroche à qui possède l'information, qui est mon patron, quels sont les processus, quelles sont les méthodes. Et finalement, on perd le sens. Et c'est parce qu'on perd le sens qu'on ne sait pas se modifier au sein de l'entreprise. Or, si on avait le sens, on devrait continuer à dire, pour réaliser cet objectif, pour ce sens-là, il est indispensable que l'entreprise, dans son fonctionnement, se transforme.
Vous le disiez, une question de Catherine Pétillon.
Vous le disiez, beaucoup des questions préexistent. Ce qui est nouveau peut-être, c'est les modalités dans lesquelles les travailleurs interviennent dans un même projet. On le constate, absolument, un même projet est mené à la fois par des travailleurs salariés, des prestataires, des auto-entrepreneurs. De quelle manière ce changement-là est induit par ou renforcé par le numérique?
Il est renforcé par le numérique, ne serait-ce que par les outils qui permettent un travail collaboratif beaucoup plus facilement. Le fait que l'information, elle n'est plus simplement donnée par le hiérarchique, elle est disponible en permanence et de façon très simple et très facile. Et le fait qu'au sein de l'entreprise maintenant, on peut travailler dans les mêmes locaux. Enfin, les distances n'existent plus. C'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble sur un même projet en étant dans des locaux tout à fait différents. Donc, ça renforce le fait que sur un projet donné, on puisse avoir des gens de statut différent, différents, on y reviendra peut-être tout à l'heure à la question du statut, du CPA, etc. Des gens de statuts différents qui sont là, soit parce qu'ils sont salariés de l'entreprise, soit parce qu'ils sont des indépendants, des freelancers, soit parce qu'ils participent au projet, soit parce qu'ils sont des experts qu'on va venir chercher, soit parce qu'on va venir chercher des experts sur des plateformes numériques aussi qui vont venir travailler sur ce projet-là. Mmh. Et il faut que l'entreprise sache créer le système qui va permettre à tout le monde de travailler ensemble.
Mmh. Antonio Casilli, tout à l'heure dans le reportage de Catherine, on a entendu l'exemple de la Full Factory, donc à la française, où on peut effectuer des micro-tâches. L'origine, enfin disons peut-être la première, je pense, c'est la Turc Mécanique d'Amazon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, c'est plutôt Mechanical Turk.
C'est Amazon voilà. Mechanical Turk, en effet. Donc, c'est une plateforme qui est née il y a 10 ans, plus. Et donc, c'est Amazon, évidemment, qui l'a lancée. Et il s'agit, en effet, de ce qu'on appelle de services de micro-travail. Donc, en effet, si vous êtes un Turker, donc on l'appelle comme ça, donc un travailleur de Mechanical Turk, vous connectez à ce service et vous réalisez des tâches qui vous semblent complètement anodines.
Alors, est-ce que vous les réalisez pour Amazon, forcément?
Eh ben, en effet, vous les réalisez pour quelqu'un qui est un recruteur. Donc, en effet, ça, c'est une autre question, là. C'est le recruteur qui remplace le patron d'entreprise. Donc, le recruteur est tout simplement un client, lui aussi, de la plateforme, qui se connecte à la plateforme et qui dit, moi, j'aurais besoin, par exemple, que l'on range 1000 photos. Ou alors qu'on organise des morceaux de musique en playlist ou alors qu'on tague des vidéos. C'est des tâches de ce type-là. Et Amazon Mechanical Turk ou Full Factory en France agit en intermédiaire et donc trouve une foule de personnes qui sont prêtes, moyennant une rémunération vraiment très très petite, soient prêtes à réaliser ces tâches.
Alors, grande question, est-ce que c'est de l'esclavage?
Alors, la grande question, c'est du tâcheronnage plutôt. La question est que là, on est face à vraiment une nouvelle forme d'activité productive, qui est complètement incompatible à mon sens avec ce qu'on a connu jusque-là. Parce que ce qu'on a connu jusque-là était une activité productive, je ne veux pas vous faire un mot Marx, mais qui était une manière d'associer toujours le travailleur au sens de sa propre activité. Sinon, il y avait évidemment de l'aliénation. Donc l'aliénation, c'est justement ça, dans la manière classique de l'envisager, le fait d'éloigner la personne qui travaille du sens de ce qu'il fait. Ouais. Alors par contre, sur ces plateformes-là, on est face à une opacité incroyable, qui est provoquée par la structure, par l'architecture technique même, qui fait en sorte qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on est en train de faire, et surtout, on ne sait pas qu'on est en train de préparer notre propre licenciement, pour ainsi dire. Pourquoi ? Parce que, d'un certain point de vue, je ne veux pas vous faire le coup de l'automatisation et des robots qui vont prendre notre place, mais c'est vrai que sur ces plateformes, chaque micro-travailleur est en train d'entraîner des algorithmes. Finalement, il est en train d'entraîner des machines à réaliser les tâches que les machines ne sont pas capables de faire, de réaliser aujourd'hui. Une machine aujourd'hui n'est pas bonne à reconnaître, par exemple, des images de chatons sur vos photos, ou alors de ranger des morceaux de musique. Mais les êtres humains peuvent apprendre à la machine, peuvent enseigner à la machine. Et du coup, on est en train de faire du machine learning, et on est en train de...
Parce que derrière, améliorer. Les machines observent ce travail,
les machines
ça,
enregistrent toutes ces données, donc il y a déjà des enjeux énormes de surveillance sur le lieu de travail, de violation de la vie privée, et en plus de préparation de ce type d'algorithme performant.
Ouais. Antonio Casilli, une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme de résistance et de mobilisation aussi, ces travailleurs éparpillés à travers le monde. Si on prend l'exemple d'Amazon, ils se sont unis et révoltés un peu contre la plateforme. Comment ça s'est passé?
Alors, il s'est passé d'abord justement sur des forums de discussion, voilà. Dans le reportage, on l'a entendu, il y a des forums de discussion dans lesquels les travailleurs s'expriment. Et on a remarqué que ces travailleurs ne s'exprimaient pas seulement, ils apportaient évidemment des témoignages, mais en plus, ils produisaient des petits outils, des outils informatiques, par exemple, des extensions de leur navigateur qui permettaient, par exemple, d'évaluer à leur tour les recruteurs, ou d'évaluer le service, ou la qualité de la rémunération, ou les conditions de travail. Et peu à peu, ils se sont rendus compte que cet outil technique n'était pas seulement un outil neutre, mais au contraire, qu'il était en soi porteur d'un ensemble de revendications, voire d'un esprit de communauté qui se manifestait. Et du coup, ils se sont constitués, ils ont créé ce syndicat qui s'appelle We Are Dynamo, qui est l'un des premiers syndicats des plateformes. Mais En plus, j'ajouterais, il y a aussi ce qui se passe chez les plateformes pour chercher à contrer ce type de revendications. Personnellement, j'aurais envie de voir ce qui se passe sur le forum de Full Factory pour voir si le fait d'avoir eux-mêmes hébergé un forum dans lequel les travailleurs s'expriment
les amène à changer un peu ou pas. Oui,
ouais,
voilà. C'est des vraies questions. Nathalie Andrieux, comment fait-on pour défendre ces travailleurs? Alors là, c'est vraiment l'exemple de la micro-tâche, mais à travers le numérique, on a vu d'autres formes de travailleurs indépendants aussi, ou de travailleurs sur des plateformes justement, comme Uber. Comment fait-on? Quelles sont vos propositions? Puisque le Conseil du numérique, quand même, a beaucoup réfléchi à ces questions.
Oui, oui. On a rencontré surtout beaucoup de personnes. Donc, effectivement, au-delà de la micro-tâche, il y a ce qu'on appelle les travailleurs indépendants qui sont économiquement dépendants. C'est-à-dire que le lien de dépendance, aujourd'hui, dans la loi française, il est décrit comme uniquement un lien de subordination juridique. Or, on peut tout à fait, et aujourd'hui, il le faudrait d'ailleurs, réfléchir à ce que c'est qu'un lien de subordination. Et ce lien de subordination ne peut pas n'être que juridique. Il est également aussi de plus en plus économique. Donc si vous êtes un travailleur dit indépendant, juridiquement indépendant, mais que économiquement 80% ou 90% de vos revenus ne proviennent que d'une seule plateforme,
Par exemple Uber,
naturellement, c'est comme si vous aviez une subordination et que vous avez un lien de subordination qui est très fort puisque c'est un lien de subordination économique. Donc il est bien, et c'est pour ça que dans une des recommandations, on souhaite que le droit évolue et que pour ces travailleurs indépendants, économiquement dépendants, eh bien, on change en fait la protection et les régimes de protection pour ces salariés-là, pour intégrer des devoirs aussi aux recruteurs qui, quelque part, sont responsables aussi pour ces salariés.
Mmh. Mais c'est quand même très difficile parce que ces recruteurs, c'est pas qu'on les connaît pas, mais enfin Uber par exemple, c'est pas très transparent quoi.
Je trouve que c'est beaucoup plus transparent que n'importe quoi parce que je vais prendre un exemple. Hein, évidemment, ça n'a pas de rapport, mais vous êtes dans un taxi et vous payez en liquide. Je ne suis pas sûre. Encore une fois, avec toutes les toutes les précautions, mais je ne suis pas sûre que le taxi déclare le 10 euros de course que vous venez de faire et que vous lui avez donné. Sur Uber, tout est extrêmement enregistré. Vous savez exactement où la voiture est partie, où elle est arrivée. C'est au contraire, on a une clarté, une visibilité sur ce qui se passe. D'ailleurs, sur toutes ces plateformes numériques, c'est presque le contraire. Quand vous louiez votre appartement à la personne, à votre voisin ou à des amis d'amis qui vous rémunéraient pour ça, effectivement, il n'y avait aucune trace. Maintenant, si vous louez via Airbnb, eh bien, il y a des traces. Donc, on est tout à fait capable, si on change l'exploitation de ces informations-là, de pouvoir
changer aussi. Question sur la fiscalité, je ne sais pas Absolument. Si on aura l'occasion de parler. Catherine Pétillon.
Pour revenir sur la forme que peuvent prendre ces revendications, Antonio Casilli, vous parlez de We Are Dynamo en disant que c'est le premier syndicat des plateformes. On voit qu'aujourd'hui en France, les revendications syndicales, en tout cas les plus établies, formulées, sont celles des syndicats de cadres qui réclament notamment le droit à la déconnexion. Mais il y a encore assez peu de choses s'agissant de ces nouveaux indépendants dont on vient de parler. Comment à l'étranger, en Allemagne, notamment ailleurs en Europe, les syndicats ont réagi et pris en charge ces questions qui se posent à eux?
Alors, il se trouve qu'en Allemagne, en effet, les syndicats ont tout de suite, enfin très vite, compris qu'un changement était en train de se réaliser et ils ont compris qu'il fallait se positionner dans ce contexte-là. Donc il y a eu en particulier la Fédération allemande des syndicats, donc la DGB, qui a produit, qui a publié il y a 2 ans même, un premier white paper, c'est-à-dire un premier...
Livre blanc, exactement,
merci, sur les travailleurs des plateformes. Et surtout, il y a le syndicat le plus important d'Allemagne et d'Europe d'ailleurs, qui est le IG Metall, donc c'est les métallos allemands, qui est le syndicat qui a le nombre le plus important d'adhérents d'Europe, qui a créé sa propre plateforme pour les travailleurs des plateformes, sur laquelle, plateforme, on peut en gros se rendre pour manifester justement son satisfaction vis-à-vis de son recruteur, son employeur ou embaucheur, voilà, c'est à vous de choisir le terme pour ne pas employer le terme classique. Et d'ailleurs, quand même, il ne faut pas sous-estimer sous-estimer les efforts que, même d'une manière assez timide, les syndicats français sont en train de réaliser, ou même les travailleurs français sont en train de réaliser. On l'a entendu dans le reportage. Il y a des groupes de parole sur WhatsApp, les pages Facebook. C'est des lieux qui ne sont pas forcément reconnus comme des endroits dans lesquels on fait du syndicalisme, mais quand même on fait de la conscience. Conscience, je dirais pas de classe, mais certainement conscience,
au moins conscience
d'un travail.
Des droits qu'on peut réclamer. Nathalie Andrieux.
Oui, je pense que, enfin, l'exemple allemand est un bon exemple, mais en même temps, la culture syndicale allemande est très différente de la culture syndicale française. Donc, elle est plus puissante. Elle est dans une forme de cogestion que nous n'avons pas en France. Voilà. Ceci dit, donc, voilà, c'était juste le bémol. Par contre, je trouve que si on revient à cette négociation syndicale, il faut les faire évoluer pour les travailleurs indépendants, mais il faut les faire évoluer aussi au sein de l'entreprise. Les représentations syndicales actuelles au sein de l'entreprise, je vous vois sourire, Antonio, sont des formes de représentation qui doivent évoluer parce que aujourd'hui, comment est-ce qu'on représente l'ensemble des salariés? Quels outils on utilise pour représenter l'ensemble des salariés? On le fait encore sur des modalités extrêmement anciennes, sans utiliser la puissance du numérique pour recueillir les avis ou faire parler, ou vraiment exprimer les gens.
On aura un contact direct entre le salarié ouvrier de base et son grand patron via WhatsApp. Mais je voulais quand même vous demander, comment on protège les travailleurs indépendants, si on parle d'eux par exemple, qui via les plateformes sont à leur propre compte, est-ce que notamment en termes de retraite, sécurité sociale, enfin tout ce qui est cotisation,
l'État est en train de réfléchir, donc c'est pas pour défendre les propositions de l'État, mais en l'occurrence je trouve que le compte personnel d'activité et donc le CPA est un élément clé dans l'avenir pour les mutations que nous devons connaître. Pourquoi ? De plus en plus, Antonio l'a dit, on va avoir une hybridation des parcours, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire un métier qu'on ne va pas faire tout au long de sa vie. Et comme on ne va pas faire tout au long de sa vie, on va aussi peut-être évoluer dans son statut. Peut-être qu'un jour on sera salarié, peut-être qu'on aura envie d'être entrepreneur, peut-être qu'on aura envie d'être indépendant, freelancer, c'est-à-dire que notre statut va évoluer parce que nos métiers vont évoluer. Aujourd'hui, emploi égale salaire égale statut, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est lié au statut et non pas à la personne. Et c'est ça qu'il faut casser. C'est pour ça que le CPA me semble un levier indispensable en liant les droits aux salariés, à la personne, pardon, pas aux salariés, en liant les droits aux travailleurs, à l'individu, ça permet de suivre l'évolution dans les parcours. Ça permet aussi d'y accorder des droits à la formation, par exemple. Ce que nous, on pousse aussi au Conseil national du numérique, le droit à la contribution, c'est-à-dire que dans ces temps entre les différents travails, on pourrait avoir des temps de respiration où on a envie de mener un projet personnel ou un projet associatif qui doit être pris en compte parce que dans notre vie, Antonio disait qu'on n'aurait peut-être pas de travail pour tout le monde. C'est sans doute vrai. Il faut absolument qu'on puisse réfléchir autrement au modèle de société que l'on veut. Je crois qu'on est arrivé au bout du modèle de société actuel. Et il faut ensemble, collectivement, penser, mettre en place un nouveau modèle de société. Parce que l'ubérisation, au sens classique, j'allais dire un peu populaire du terme, on n'y échappera pas. Moi, je crois même que le tâcheronnage, je ne sais pas comment vous dites, quelque part, on n'y échappera pas non plus. Donc, on ne peut pas aller contre ça. Les robots vont être de plus en plus intelligents et ils vont remplacer de plus en plus l'homme. Et c'est le partenariat, j'allais dire.
Partenariat entre le robot et l'homme. Ok, il faut réfléchir. Catherine,
on parle une dernière question. Rapidement, on parle depuis tout à l'heure de ce qu'il faudrait protéger, de la protection sociale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ces nouveaux collectifs qui s'inventent quelque chose d'inventif, de créatif, des nouvelles formes
Des choses positives finalement, quand même, dans ces nouvelles plateformes par exemple
Des choses positives qui se manifestent.
Tout ce qui est l'open source.
Il y a cet effet, cette envie de générosité, de contribution. En même temps, je mettrai des bémols sur cette figure, cette représentation qui était optimiste, qui est basée sur le CPA, parce qu'on s'imagine que le CPA peut marcher parce que quelqu'un travaille pendant 3 ans et après reçoit pratiquement le même type de revenus en étant auto-entrepreneur. Le fait est que un auto-entrepreneur est en train de prendre sur soi le risque de l'entreprise même et qu'on est en train de déplacer sur ces personnes-là le risque même de l'entreprise. Donc ces personnes-là, je suis désolé de ne pas être optimiste, ont besoin non seulement d'un CPA qui soit un compte personnel d'activité, mais plutôt de quelque chose qui rassemble à une assurance contre ce type de risque.
Et pour l'instant, on a les talents.
Voilà. On a même parlé d'un revenu de base qu'on pourrait donner à tout le monde.
Ça, c'est
aussi une idée importante, mais qui n'est pas encore concrétisée, voilà. Loin de là. Merci beaucoup, Antonio Casilli, Nathalie Andrieux, d'avoir participé à ce magazine
Merci
de la rédaction.
Vous.
Comment travailler ensemble dans un monde numérique. Enquête signée Catherine Pétillon, réalisée par Annie Brault à la technique. Ce soir, Francis Pascal et Edward Rubinstein. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, la commenter aussi sur notre tout nouveau site franceculture.fr.